Bonsoir, bonsoir à vous, fidèle au mardi d'éthique publique du centre Sèvres, qui avait fait le déplacement malgré l'orage. Bonsoir aux auditeurs de RCF qui nous écoutent par la voix des ondes. Bonsoir aussi à tous nos auditeurs des villes en région qui sont réunis pour écouter la retransmission en direct de ce dernier mardi d'éthique publique de la saison. Mardi d'éthique publique intitulé ce soir, en vue d'un été heureux, progrès des raisons d'espérer. L'apocalypse, c'est enthousiasmant. Ainsi s'exprimait le sociologue Bruno Latour, connu pour son goût du paradoxe, dans un entretien accordé il y a quelques jours au journal Le Monde. « Du passé, faisons table rase », chantaient certains de nos prédécesseurs. « Du futur, faisons table rase », devrions-nous entonner aujourd'hui. Ce qu'entendait souligner Bruno Latour, c'est que la prise de conscience de la part des plus jeunes, des menaces qui pèsent sur la planète Terre, est une porte ouverte sur l'optimisme et pas sur la résignation. La génération 68 avait voulu écarter celle de ses parents pour occuper la place et réaliser ses propres attentes. La jeune génération d'aujourd'hui intime au contraire à ses aînés l'ordre de prendre ses responsabilités et de lui laisser un monde vivable. Depuis le XVIe siècle, des révolutions commerciales, scientifiques puis industrielles ont laissé penser à certains que l'humanité avait pris en main sa propre destinée. Terminus, le bonheur. Y compris en se passant de Dieu, mort, pour laisser sa place au progrès scientifique. Cette phase de l'histoire de l'homme est-elle en train de s'achever face au réchauffement climatique ou à la destruction de la biodiversité? Il semblerait, en schématisant un peu, que la réponse pour les plus riches soit entendue. On arrête tout, on sauve ou l'on change ce qui peut l'être, et l'on conserve le confort auquel une toute petite partie des humains est parvenue. Et encore ce discours n'est-il pas celui d'un Donald Trump, par exemple? Et les autres, tous les autres, pour lesquels la faim, la maladie, la misère sont synonymes de vie quotidienne. Qu'est-ce qui leur est promis? Dans son encyclique Laudato Si, le pape François a appelé à repenser notre rapport à la nature, sans évacuer pour autant les aspirations au développement, au bien-être économique et social et spirituel, auxquels la grande majorité des 7 milliards d'êtres humains que nous sommes n'a pas accès aujourd'hui. Le progrès est-il une notion dépassée, voire moribonde? Ou demeure-t-il encore des raisons d'espérer dans ce qu'il est convenu d'appeler, par exemple, un développement durable? Pour poser cette question et tenter d'esquisser, soyons d'emblée modestes, une réponse, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, pour ce dernier mardi d'éthique publique de la saison, Dorothée Brouwers, biologiste de formation. Elle dirige TEK 4 Life, qui s'emploie à accélérer la bascule vers une société réajustée au milieu vivant, après avoir été responsable de la rubrique science du quotidien La Croix. Elle a publié en 2011 avec Bernadette Banceau de Vincent « Fabriquer la vie, où va la biologie de synthèse » aux éditions du Seuil, et en 2018 « L'urgence du vivant vers une nouvelle économie » chez François Bourin. Jean-Michel Debras est ancien directeur général adjoint de l'Agence française de développement et chargé à l'heure actuelle des relations institutionnelles de l'Observatoire Pharos. Par son expérience professionnelle, Jean-Michel Debras a une connaissance de l'Afrique au premier plan aujourd'hui sur toutes les questions qui viennent d'être évoquées et dont il va nous parler non pas en tant qu'observateur, mais en tant qu'acteur de terrain. Vous avez la parole.
Merci. En effet, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans les différentes institutions françaises de développement, dont la principale, l'AFD, l'Agence française de développement, où j'ai passé 20 ans. Je suis maintenant en retraite. Et dans cette retraite, j'appartiens, comme vous l'avez dit, à l'Observatoire Pharos, qui est une association qui milite pour un sujet qui a l'air différent du premier, mais qui en fait lui est, et c'est pour ça que je le relate, c'est une association qui vise au renforcement du pluralisme des cultures et des religions, notamment dans les pays dont on va parler. Alors c'est vrai pour la France, bien entendu, hein, touche au sujet de laïcité, c'est vrai du Proche-Orient, où la relation interreligieuse, malgré tout, peut être maintenue, et l'Observatoire en apporte une démonstration, et bien entendu de l'Afrique, où la contextualisation des crises permet d'échapper au simplisme sur le facteur religieux prédominant. En fait, on est bien dans des questions de développement dans tous les cas. Et l'expérience, aussi bien à l'AFD qu'à Pharos, c'est que c'est en développant le dialogue les plus improbables que l'on finit par renouveler les idées. Et ça, c'est aussi un clin d'œil à ce que nous allons aborder maintenant. Alors j'en viens après cette très rapide présentation pour expliquer pourquoi je suis là ce soir. Je me situerai effectivement donc d'un point de vue philosophique, ce n'est pas ma formation, mais en tant que praticien du développement, et donc pas seulement, mais notamment concernant les questions africaines. Alors, d'abord quelques réflexions, parce que progrès, raison d'espérer, c'est un champ immense, et ce que je vais vous présenter limite un peu le champ, d'abord par une réflexion sur le progrès. Le progrès de développement. Qu'est-ce que ça veut dire un progrès de développement pour une société ? Juste une observation, c'est un concept qui a extraordinairement évolué au fil des années. Il y a 70 ans, tout le monde aurait répondu, le développement, c'est l'augmentation du produit intérieur brut. Et c'est ça le progrès. Une dizaine d'années plus tard, on rajoutait quand même produit intérieur brut par tête. Et puis, 10 ans plus tard, on s'est avisé qu'il s'agissait d'abord d'essayer de fabriquer des indices de développement humain, et que c'était ça la mesure du progrès. Maintenant, on est dans des indicateurs de bien-être. En fait, tous ces objectifs, au fur et à mesure de l'évolution de la pensée scientifique, se sont révélés périmés. Et aujourd'hui, bien entendu, tous ces objectifs butent sur la question écologique, sur la question, que ce soit le changement climatique ou le recul de la biodiversité, qui remettent en cause ce qui est tenu pour acquis il y a à peine quelques années. Donc, alors, je ne dis pas cela pour dire que le sujet est impossible à traiter, mais simplement pour, malgré tout, avoir une relativisation de cette question de progrès. Alors, d'un point de vue pragmatique, ce que je vais essayer d'évoquer devant vous, c'est de se placer dans une logique d'acteur et de se poser la question de savoir s'il existe des facteurs d'innovation, qu'ils soient scientifiques, techniques, sociétaux, artistiques, qui à l'horizon de 30 ans, c'est-à-dire une génération, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser bien sûr, mais pour avoir un sujet à peu près maîtrisable. Donc des acteurs qui cherchent des leviers de changement dont l'impact est jugé positif, mais tout de suite c'est par qui ? Réponse par les populations en question, donc les populations d'Afrique. Alors, quelle est la réponse ? Donc cette question est une sous-partie, bien qu'elle reste immense, est une sous-partie de la thématique générale du séminaire, mais je vais essayer de répondre à cela. Alors, il y a effectivement un certain nombre de raisons d'espérer quand on est un acteur économique et social en Afrique. Et je vais prendre quelques exemples qui me paraissent significatifs. L'exemple de l'accès à l'énergie, l'exemple de l'agroécologie, l'exemple des traitements de l'information, l'exemple des mécanismes de création artistique. Et puis, in fine, je terminerai par les valeurs nouvelles des jeunes acteurs économiques africains, qui ne sont pas du tout celles de leurs aînés. Alors, voilà, c'est un échantillonnage, il y en a d'autres, mais c'est pour répondre à la question, existe-t-il des facteurs d'espoir ? Oui, en voici une petite liste. Alors pourquoi est-ce que parler d'accès à l'énergie ? Parce que évidemment, c'est la condition sine qua non de tout développement économique. On ne peut pas développer une entreprise dans une ville africaine si on a de l'électricité 2 heures par jour. C'est très concret. Et pire, si on en a, mais pas forcément à la bonne heure, qu'elle peut s'interrompre à tout moment. Et bon. Alors, est-ce qu'il y a des réponses à cela ? Il y a des parties entières de l'Afrique, un bon tiers de l'Afrique, qui est connecté dans des réseaux et qui fonctionne. Il y en a un deuxième tiers avec des approvisionnements défaillants, mais existants. Et puis, il y a une immense région, les régions rurales, les quartiers populaires, où on n'a pas de distribution. Alors, qu'est-ce qui est changé ? Ce qui est changé, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à l'énergie renouvelable, de progrès en progrès, ça fait 20 ans qu'on améliore sans arrêt ces techniques, et aujourd'hui, on arrive à être capable de produire à petite échelle de l'énergie à un prix acceptable, et donc de répondre à la demande des zones rurales, des villes moyennes ou des quartiers mal desservis des îles principales. Alors, ce sont des choses très concrètes. Hein. L'arrivée du chauffe-eau solaire, ça change tout. Alors, vous dire chauffe-eau en Afrique, oui, il y a des parties entières de l'Afrique où on a froid l'hiver. Un système d'alimentation locale qui permet aux ordinateurs de fonctionner sans défaillance, c'est fondamental. Et aujourd'hui, l'informatique, y compris en Afrique, est devenue un facteur de production, un élément de production fondamental. Alors, donc, voilà, on a aujourd'hui des outils qui étaient impensables il y a 20 ans à disposition. Ça ne veut pas dire qu'ils sont généralisés, mais là, on a un facteur. Deuxième exemple, l'agroécologie. Aujourd'hui, on est capable de définir dans les conditions hydrologiques limites, qui sont celles de plus de la moitié de l'Afrique, sans épuiser les sols, par un accès à des données de micro-météorologie, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la biologie, la micro-météo, le noyau de tout ça étant la liaison par les téléphones portables qui permet de porter partout, à bas prix, l'information pertinente. Et aujourd'hui, on peut envisager de faire évoluer l'agriculture paysanne. Je ne parle pas des grandes plantations, hein. Je parle de l'agriculture vivrière par des exploitations familiales. Eh bien, il y a des outils qui étaient impensables il y a à peine 20 ans et qui permettent d'espérer des augmentations de rendement et des adaptations sans perturber le capital de la terre, le capital de production de la terre, sans l'épuiser et en s'adaptant au changement climatique dont on ne connaît pas tous les contours mais qui sera dans beaucoup de cas défavorable. Troisième exemple, celui le plus vaste évidemment, c'est les technologies de l'information. C'est un domaine immense qui est étendu à l'infini et qui touche aujourd'hui tous les facteurs. On peut installer une école de formation supérieure au fin fond au nord du Burkina. Enfin, j'aurais dit ça il y a quelques années. En fait, je cite un exemple précis. Mais je ne sais malheureusement pas ce qu'il est devenu compte tenu des problèmes de terrorisme au nord du Burkina. Mais je connais un cadre qui a créé une école supérieure de très bon niveau. Comment faisait-il ? Il avait accès, par les satellites et par Internet, à la bibliothèque illimitée, l'accès à des cours en ligne des meilleures universités du monde. Bon, aujourd'hui, on peut organiser une formation, s'assurer que la jeunesse africaine est au même niveau d'accès aux dernières découvertes que n'importe qui dans le monde. Et ça, c'est un facteur fondamental. Il y a 20 ans, la seule façon de se forter, c'était d'aller dans un premier temps à Abidjan ou à Dakar, et dans un deuxième temps à Paris ou à Londres, ou à New York. Fini. Deuxième exemple, qui n'a rien à voir avec celui-là, mais une des plaies en Afrique, c'est la circulation de la monnaie et l'épargne. C'est en train d'être complètement bouleversé par la circulation monétaire via les vecteurs informatiques, les financements, ce qu'on appelle les fintechs, les technologies financières à base d'informatique. Et ce ne sont pas les Américains ou les Français qui ont amené cette innovation, ce sont les Kenyans. Ce sont les Kenyans qui ont montré qu'on pouvait complètement changer la circulation monétaire avec des téléphones portables et des applications simples que le Kenyan moyen, je ne parle pas de quelqu'un qui a fait des études supérieures, je parle d'un commerçant, je parle d'un agriculteur, et utilise. Bon. On peut multiplier les exemples à l'infini. L'accès aux données de gestion, par exemple. Une des plaies du développement de l'agriculture en Afrique, c'est la difficulté d'avoir un cadastre accessible. D'abord, exact, et deux, accessible. Mais aujourd'hui, c'est techniquement faisable. Sur des bases informatiques que personne ne viendra, enfin, sauf piratage organisé, mais qui resteront disponibles. Vous voulez développer des affaires. Quel est le droit applicable? Jusqu'à il y a peu, on ne peut pas répondre à cette question aussi élémentaire. Ou plus exactement, il y a des incertitudes extraordinaires. Pourquoi? Parce que les textes ne sont pas publiés, ou de publier de manière incomplète, parce que les arrêts de jurisprudence ne sont pas accessibles, et qu'au moment où on traite l'affaire, on sort tout d'un coup des arguments qui n'étaient pas accessibles aux parties. Bon, alors l'exemple ultra connu, évidemment, c'est la télémédecine, mais on peut les multiplier. On peut aujourd'hui mesurer si l'exploitation forestière est responsable, du point de vue de l'environnement, par des photos satellites. D'une précision, enfin, la précision, c'est un mètre, donc voilà, on peut compter les arbres, voilà, pour être précis. Alors, J'arrête là. On peut modéliser le développement des villes. Alors, donc, si on arrive à se servir à la bonne échelle de ces outils qui existent, on a changé la donne du développement de l'Afrique. Alors, est-ce que c'est utopique ? Non, parce que ces technologies sont accessibles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la jeunesse africaine qui a eu le privilège de pouvoir se former les manie parfaitement. Donc, il n'y a plus de décalage temporel entre le moment où une innovation apparaît dans le reste du monde et le moment où elle peut être applicable, éventuellement à petite échelle, mais elle peut être applicable en Afrique. Donc, les mondes nouveaux est là, l'Afrique, et même, elle est aujourd'hui en position de rattraper des retards en sautant des étapes. Je prends un exemple. Il était très difficile d'organiser la circulation monétaire sans un réseau d'agences bancaires. Dans aucun pays d'Afrique, enfin, sauf peut-être l'Afrique du Sud, il n'y avait de réseau d'agences bancaires. Ça coûte trop cher. Il y avait 2-3 banques dans la capitale, 1 ou 2 dans les villes principales, et puis on se débrouille avec ça. Autrement dit, l'économie africaine était sous-bancarisée, ce qui est une catastrophe. Bon. Mais aujourd'hui, c'est résolu. Parce qu'il n'y a plus besoin d'agences bancaires. Et les Africains sont en avance sur nous. J'ai été nommé en Afrique du Sud pour des raisons professionnelles en 2010. En 2010, j'ai mesuré l'écart qu'il y avait entre l'Afrique du Sud et c'est pas seulement l'Afrique du Sud, le Kenya c'est pareil. Il y avait un écart en faveur de l'Afrique du Sud. Ils utilisaient des outils que moi je ne connaissais pas. Donc on a complètement, il y a des inversions qui se produisent aujourd'hui dans tous ces domaines. Bon, voilà quelques exemples, je dirais, à connotation économique et technique. Mais il y en a d'autres dans le domaine des sociétés, par exemple. Le partage de la vie culturelle mondiale, c'est aussi dû évidemment aux données techniques, hein, de l'informatique et des médias, mais est aujourd'hui total. Il y a une multiplication de manifestations culturelles panafricaines, dans tous les domaines, le cinéma, la musique, les salons de mode. On est en train d'assister à la création d'une identité culturelle africaine contemporaine. Elle a toujours existé, bien entendu. Mais elle est en train de se créer de manière synchrone avec le reste du monde aujourd'hui. Et elle n'est pas élitiste. C'est-à-dire qu'elle est accessible au grand nombre, cette culture. Deuxième exemple, toujours dans l'évolution sociétale, mais rien à voir avec la vie culturelle, l'évolution des mentalités, des valeurs. L'entreprise est aujourd'hui au centre de l'horizon des jeunes qui sont formés. Il y a 30 ans, un jeune Africain bien formé songeait à rentrer dans l'ENA de son pays, pour faire une carrière une banque internationale, etc. Aujourd'hui, les jeunes ont d'autres valeurs. Ils disent, moi je veux travailler pour mon pays, il faut que je crée mon entreprise, il faut que je crée des emplois, il faut que je réponde aux besoins de ma ville. Et cette mutation, elle est fondamentale. Avec une montée remarquable de l'entrepreneuriat féminin. Qui est très remarquable parce qu'en Afrique, la position économique des femmes elle reste d'ailleurs défavorable. Donc, pourquoi est-ce que cette évolution sociétale a aussi une ampleur économique importante ? Parce que la multiplication de milliers et milliers d'entreprises, c'est la seule voie que l'on connaisse aujourd'hui pour créer des emplois qui soient à la hauteur de l'évolution démographique. Ce ne sont pas les grandes entreprises qui permettront d'employer des dizaines de millions d'Africains. Deuxièmement, il faut que les emplois soient là où ils doivent être, c'est-à-dire là où est la population, dans les villes, dans les campagnes. Troisièmement, ces entreprises doivent délivrer des produits qui sont adaptés aux besoins de la population. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est que ce soit des entreprises africaines, dirigées par des Africains, qui le fassent. Et puis enfin, que ces entreprises soient dans leur procédure, leur mode de fonctionnement, adaptés à la sociologie des populations. Le drame de toutes les entreprises nées en France et qui travaillent en Afrique, par exemple, c'est les incompréhensions culturelles phénoménales et qui bloquent, qui sont de vraies facteurs de blocage des entreprises. Alors, voilà quelques thèmes. Ce ne sont que des exemples. Ils sont heureusement assez larges. Mais je retiendrai de ce rapide balayage. Est-ce que je suis dans les temps ? Oui. Je retiendrai de ce rapide balayage le fait que les évolutions technologiques des 20 dernières années ne place pas l'Afrique à l'écart, ce qui est nouveau. L'explication qu'on donnait au manque de développement, quand j'étais jeune, il y a 30 ans, c'était « Ah oui, mais il y a un décalage, nous avons fait... » Il faut qu'il repasse les étapes de la révolution industrielle. Ben non, c'est fini. Aujourd'hui, la révolution industrielle qui a lieu dans les pays dits développés peut être appliquée à l'Afrique de manière directe. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est qu'il y a même maintenant des phénomènes inverses, c'est-à-dire de l'innovation inverse. Tous les grands groupes ont compris aujourd'hui qu'en observant attentivement ce qui se passait en Afrique, ils apprenaient. Alors, c'est vrai des groupes de télécom, c'est vrai des groupes d'informatique. Il y avait des progrès à attendre en observant attentivement ce qui se passe dans leur filiale africaine. Donc ça ne marche pas du tout. Alors ce n'est pas la généralité. Mais le fait que ça existe de manière significative est très important. Il y a ces raccourcis de rattrapage dont je parlais tout à l'heure, plus faire l'économie de l'étape développement d'un réseau. Dans l'exemple de l'éducation, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut tout apprendre par Internet, parce qu'il y a un moment où il faut qu'il y ait une interréaction entre les formés, les formateurs, et bon, il y a une vie de classe, si j'ose dire. Il n'empêche que s'il faut que l'on scolarise aujourd'hui la jeunesse africaine, c'est très simple, on n'y arrivera pas. Financièrement, on n'y arrivera pas. Le nombre de milliers de salles de classe, le nombre de campus universitaires, les dizaines de milliers d'enseignants formant des codes. Bon. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on va alphabétiser tout le monde par l'informatique, ça ne marcherait pas. Mais le fait de pouvoir faire des alternances entre une source de savoir aujourd'hui disponible, sans coût, pratiquement sans coût, et un savoir mondial, et bien entendu un minimum de périodes sur place où les enseignants ou des enseignants retrouvent des enseignés, mais ça, c'est la seule chose qui puisse changer la donne en matière d'accès à l'éducation. Sinon, le calcul est simple, les États n'auront pas les moyens de construire les systèmes scolaires que nous avons construits. D'ailleurs, pour prendre l'exemple de la France, mais pas seulement de la France, tout le monde sait bien que depuis 30 ans, les systèmes d'éducation sont en train dans des phases d'ajustement structurel, c'est-à-dire de régression, pour des raisons budgétaires, notamment. Donc, même nous, nous sommes confrontés au problème, pas du tout à la même échelle. L'élément nouveau en Afrique, c'est qu'on peut repenser tout ça. Et donc, les sociétés africaines ne sont pas à l'écart de l'évolution contemporaine, elles sont connectées sur le monde. Alors, maintenant arrive une autre question. Est-ce que cette somme de raisons d'espérer fait du développement et permet d'espérer un progrès global dûment constaté à l'échelle du continent? Ce qui est une autre question. Autant, comme je disais, dans une logique d'acteur, on peut dire à des gens qui veulent, à des jeunes qui veulent se lancer, vous avez des outils qui vous permettent de développer votre entreprise, de créer des marchés, de créer des emplois, etc. Mais quand on voit l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne tout cela, est-ce qu'on est à l'échelle? Alors, là, bien entendu, on est renvoyé à des facteurs critiques globaux qui vont s'imposer aux acteurs, qui ont des outils, mais... Le premier, c'est l'évolution globale des gouvernances, de la gouvernance des sociétés africaines, qui ne va pas dans le bon sens, même dans les pays qui avaient un état de droit. Je pense au Sénégal au hasard. Mais il y a pire. Le pire, c'est la perte de la paix. Si vous tracez la carte des zones de guerre civile, il y a 20 ans, on avait le cas malheureux de la Somalie. Bon, on trouvait des tas de raisons pour que ce malheureux pays, cette malheureuse population, soit sans État, sans abandonner. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pas ça. C'est qu'en gros, un tiers du continent africain n'a plus la paix. Et tout ce que j'ai dit avant, je ne sais pas comment ça peut fonctionner dans un climat de guerre civile. Enfin, un climat et une réalité de guerre civile. Pharos, dont je parlais tout à l'heure, l'association à laquelle j'appartiens, s'investit beaucoup en Centrafrique. Pourquoi? Parce que là, on est au fond du sujet. Plus d'État, plus de... On ne sait pas par quel bout prendre le problème. Ça fait quand même, honnêtement, on est obligé de prendre en compte ces facteurs. La deuxième interrogation fondamentale, c'est l'attitude du reste du monde à l'égard de l'Afrique. Alors, le schéma traditionnel, c'est que le reste du monde, qui d'ailleurs, il y a 50 ans, était surtout l'Europe, se comportait mal vis-à-vis de l'Afrique, hein, le débat sur la colonisation, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un système totalement différent? Les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, le Brésil, tout le monde est à bord du destin de l'Afrique. Est-ce que la relation de négociation de l'Afrique vis-à-vis du reste du monde est toujours défavorable, ou est-ce qu'elle a changé? Je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup changé, même quand il y a des investissements colossaux. C'est ce que font les Chinois en ce moment. Ils investissent massivement en Chine. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ça crée des relations de dépendance terribles. Alors, on n'a pas de leçons à donner, nous, avec notre passé. Je dis simplement, ça ne change pas tant que ça. C'est-à-dire que parmi les responsabilités, il faut quand même admettre l'idée que globalement, les pays non africains maintiennent ou développent de nouvelles relations de négociation, mais dans laquelle l'Afrique reste en position défavorable. Ensuite, il y a la question du passage à l'échelle. Être capable de réussir une chose à l'échelle de 10 millions de personnes et passer à 400 millions, Or, la clé du passage à l'échelle, c'est la masse de financement qu'on y met. Et là, quand on observe les marchés financiers mondiaux, on est bien obligé de se rendre compte qu'il n'y a aucune volonté d'inverser cette pente. Strictement aucune. Quand je disais tout à l'heure l'Afrique n'est pas en retard, par exemple, le financement participatif, crowdfunding en anglais. Il y a du crowdfunding en Afrique. Je crois que c'est de l'ordre de une centaine de millions d'euros, donc c'est beaucoup. Oui, sauf que le crowdfunding mondial, c'est 1 ou 2 milliards. Donc, ne prenez pas mes chiffres de manière exacte. Enfin, les ordres de grandeur sont exacts, mais je n'ai pas les chiffres précis en tête. Mais les ordres de grandeur, c'est bien cela. On est de 1 à 10, ou plus. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, la seule manière d'attribuer les financements, c'est de raisonner en termes rendement-risque. C'est comme ça que raisonnent tous les financiers du monde, partout. Et en plus à court terme. Et avec des exigences extravagantes. 15% de rendement annuel. Alors ça, effectivement, à 15% de rendement annuel, on peut prendre des risques dans la technologie en Californie. Ça devient plus compliqué en Côte d'Ivoire, même si c'est faisable. Donc ce passage à l'échelle, à mode de fonctionnement des marchés financiers constants, c'est assez difficile à imaginer. Et puis évidemment, in fine, mais là je laisserai Mme Brouwesse le développer, on ne peut pas cacher les incertitudes climatiques. Pas seulement pour des raisons de hausse moyenne de température, mais surtout pour des raisons de dérèglement, c'est-à-dire d'imprévisibilité, de catastrophes qu'on ne peut pas mettre, que vous savez aussi bien que moi, puisque ça. Voilà. Donc, en conclusion, y a-t-il des facteurs d'espoir pour envisager des progrès? Oui. Est-ce que ces raisons d'espérer qui reposent à chaque fois sur des données objectives raisonnées et contrôlées, avec les moyens actuels, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans 10 ans ou dans 20 ans? On peut faire ce genre de raisonnement. On fait une série de raisonnements de ce type. Mais ça débouche sur une question beaucoup plus profonde et dont nous discuterons probablement tout à l'heure, qui est non pas les facteurs d'espoir, mais l'espérance, prise globalement. Parce que l'espérance, c'est pas l'extrapolation de facteurs objectifs en se disant, dans 10 ans, ça va se développer. Non. Il y a dans l'espérance une dimension qui n'est pas une dimension d'extrapolation à partir du réel. Il y a qui est l'espoir. Il est d'une nature différente. Ça a la nature d'une inspiration. Et je pense que c'est pas déplacé de dire dans cette maison que ça a un rapport avec la foi. Enfin, quelle que soit la foi, mais un rapport avec la foi. Donc, ces espoirs, donc, pour revenir à ce que je vous propose, une discussion à débattre, c'est que ces espoirs existent, mais ils n'ont de chance de se réaliser globalement que s'ils sont portés par une espérance, ce qui est un autre sujet, laquelle espérance ne peut être définie que par les sociétés africaines elles-mêmes. Enfin, c'est pas une conclusion, mais c'est plutôt une question pour favoriser le débat, enfin, j'espère. Merci.
Merci à Jean-Michel Debras de nous avoir donné au moins quelques motifs d'espoir, tempérés par des incertitudes sur l'avenir, et dans un contexte particulier, mais qui précisément n'était pas forcément, qu'on n'aborde pas toujours sous l'angle de l'espoir. Donc nous poursuivons notre soirée sur le progrès et ses raisons éventuelles d'espérer ou de ne pas espérer, nous verrons. Et je laisse maintenant la parole à Dorothée Brouwesse.
Merci pour cette invitation et pour ce sujet extrêmement important à mettre en discussion ensemble. Bonjour à tous. Je vais me placer d'une façon assez, un peu différente parce que je travaille depuis maintenant une trentaine d'années sur la question des enjeux sociétaux des technologies, qu'elles soient nanotechnologie, biologie de synthèse, biotechnologie ou informatique. Et je vais essayer de regarder d'où nous venons et ce qui est en train de se passer. Cette question du progrès, elle est capitale parce que on a l'impression aujourd'hui, et je salue les jeunes qui sont là, que nous sommes face à des choses terriblement, radicalement inquiétantes. Parce qu'on nous annonce tous les jours des destructions d'espèces et la menace climatique. Et donc, nous sommes amenés véritablement à convertir notre idée de progrès. Et c'est à l'œuvre. C'est ça que je vais essayer de dire dans mon parcours, le parcours que je vous propose. Au-delà de la question du développement, se pose depuis pas mal d'années maintenant, on pense au sommet de la Terre de 92, la question du développement durable. Pourquoi est-ce que c'est apparu? Parce que dès les années, même avant les années 50, hein, bien sûr, on a dès le 19e siècle, un certain nombre d'auteurs ont bien vu qu'il y avait des destructions. On pense à Élisée Reclus, notamment, très belle figure. Mais dans après-guerre, reconstruction, accélération d'une industrialisation, et un certain nombre de biologistes notamment ont tiré la sonnette d'alarme. Je citerai ici le nom de Rachel Carlson, 62, Printemps silencieux. Printemps silencieux, c'est le terme qu'a développé Emmanuel Macron l'année dernière, ou il y a un an et demi, en disant un jour peut-être on se réveillera, on n'entendra plus de bruit d'animaux, cette espèce de solitude qui nous terrifie. Alors, un certain nombre d'auteurs se sont exprimés, je ne vais pas tous les citer, mais on pense à Paul Virilio, à Al Gore, avec sa Vérité qui dérange, c'était 2006. Et puis, il y a eu aussi tous ceux qui ont accusé la société de consommation, insister sur son côté terrifiant, Jean Baudrillard, Philippe Muret. On peut penser que Houellebecq est dans cette veine d'ailleurs d'une inquiétude fondamentale sur l'insipide de nos existences, perte de sens. Je commence par cela pour vous revenir à un autre élément qui est très éclairant. Si vous regardez le thème des expositions universelles depuis les années 1850, on a eu une fascination pour le progrès, c'est-à-dire les possibilités techniques de nous émanciper. C'est un mot très important, l'émancipation, parce que les tâches étaient lourdes quand il fallait tirer la charrue et que l'agriculture machinisée était intéressante dès lors qu'on pouvait avoir de la traction, qu'on pouvait avoir des machines avec du fioul, qu'on pouvait avoir de l'électricité, qu'on pouvait voyager, l'aviation. Donc, on a eu tout un tas d'expositions universelles sur ces éléments attractifs, l'aviation, les textiles. Et puis, après-guerre, très clairement, ce qui se passe dans les expositions universelles, c'est l'attirance pour les loisirs. L'insoutenable de ce qui a été vécu pendant la Deuxième Guerre, la Première Guerre aussi d'ailleurs, non seulement la guerre en tant que telle, mais la Shoah et évidemment Hiroshima, le traumatisme de l'usage des techniques nucléaires pour détruire, a totalement sidéré le monde. On se souvient des termes de Camus. Je pense qu'il faudra revenir à ce sujet-là du point de vue de l'effondrement moral dans lequel nous nous sommes retrouvés, qui n'a certainement pas été suffisamment traité et métabolisé dans nos vies d'aujourd'hui. Je crois crois qu'on a voulu tourner la page. Évidemment, c'était insoutenable tout ce qui s'était vécu. Donc les loisirs, mais ensuite la demande d'une une sorte de préoccupation de sens qui est apparue, puisqu'en 58 le thème était bilan du monde pour un monde plus humain à Bruxelles. En 64 la paix par la compréhension à New York. En 70 progrès humain dans l'harmonie. En 74 progrès sans pollution. C'était à Spokane aux États-Unis. Puis en 2005 la sagesse de la nature, évidemment au Japon, à Aichi. Et puis en 2010 meilleure ville, meilleure vie, Shanghai, c'est-à-dire l'inscription dans nos villes d'une manière de vivre nouvelle. Je pense qu'on commence à voir apparaître clairement vraiment la traduction, peut-être à la marge, mais qui ne va faire que progresser puisque ça va très vite, de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de production qui partent d'ores et déjà, on le voit, du point de vue du côté de l'alimentation, du côté de l'agriculture, avec des pactes agriculteurs-consommateurs qui court-circuitent d'ailleurs les entreprises. C'est le cas, par exemple, de « c'est qui le patron ?». Ces choses-là vont se multiplier. Je reviens à mon historique, je continue, avec des personnalités qui sont extrêmement importantes, toujours dans les années 60-70, avec Nicolas Georgescu-Reagan, qui a interrogé le sujet de l'entropie, une espèce de tendance naturelle de notre univers, mais qui est contrée par des forces d'organisation qu'incarne le vivant. On parle de néganthropie. Cet homme a aussi pensé qu'on ne pouvait pas progresser sans décroître. Progresser sans décroître. Grothendieck, extrêmement intéressant. Il a fondé le mouvement « Survivre et vivre ». Il se pourrait qu'on en arrive à seulement en être réduit à survivre. Et puis Ivan Illich, évidemment. Ivan Illich, il faudra y revenir pour notamment sa référence à énergie et équité, extrêmement actuelle, et surtout la convivialité. Jacques Ellul, Félix Guattari, les trois écologies extrêmement importants pour ceux qui parlent aujourd'hui de permaculture, bien au-delà de la permaculture aujourd'hui, permaculture au quotidien, ça veut dire rapport à soi-même, rapport aux autres, rapport politique, rapport à la nature. Donc trois écologies qui fonctionnent ensemble, progrès d'une compréhension de notre être au monde. René Passé, l'économique et le vivant, très intéressant, et évidemment je ne peux pas ne pas parler de lui aujourd'hui puisqu'il vient de nous quitter, Michel Serres, avec sa proposition de contrat naturel. Je vais y revenir, je vais pas essayer de respecter le temps. Alors les mouvements qui sont apparus dans les années 70, on a quand même eu beaucoup de choses qui ont été très fortes. Le mouvement Attaque, les mouvements alternatifs à Seattle, les contre-sommets du G20, l'écoféminisme, le mouvement Chipko en Inde où les femmes embrassent les arbres pour les protéger ou s'enchaînent à des choses qui sont vouées à la destruction, des choses très corporelles. Et puis les indignés contre les oligarchies, contre la financiarisation dont il a été question, et puis contre l'abandon des pays du Sud. Et puis d'autres mouvements qui sont apparus très très récemment, les mouvements de désinvestissement, réinvestissement, extrêmement importants. BlackRock, aujourd'hui, le plus grand fonds d'investissement, gérant de fonds d'investissement, demande aux entreprises d'être transparentes sur leur impact climatique et environnemental. Et puis les zones à défendre, occupées par le corps, des espaces qu'on ne veut pas voir détruits par la bétonisation, je ne sais pas comment on dit, comme Europa City, hein, qui fait aussi un point de focalisation extrêmement important. Tout cela dans un moment où les limites planétaires, le terme de limite est extrêmement important, sont maintenant majeurs, puisque parmi les différents indicateurs du Stockholm Resilience Sensor de Rockström, hein, le chercheur très connu, spécialiste de ces questions, on a pratiquement 3 à 4 indicateurs qui sont dans le rouge. Je ne vais pas m'attarder, mais les taux d'extinction, l'acidification des eaux, les taux de phosphore aussi. Il faut bien voir que effectivement, on a affaire à des jeux de dérégulation, puisque en fait, si vous avez de moins en moins de plancton, vous allez ne plus avoir la capacité d'absorption du CO2, de même pour la destruction des forêts. Donc, les choses sont en train de s'emballer. La réponse par rapport à cela, eh bien, on a passé notre temps. Moi, j'ai vu ça à la Croix, dans tout mon métier de journaliste depuis une trentaine d'années, à nous proposer de développement durable, de la des principes de responsabilité sociétale, de la RSE, des principes de prise en compte donc des questions environnementales, de gouvernance. Pour améliorer les choses dans les entreprises. On a beaucoup fait d'efforts pour baisser l'empreinte carbone dans les entreprises, les technologies vertes, la finance verte. Mais faut pas se leurrer, comme dit Philippe Biwix, les solutions ponctuelles vont pas régler un problème de fond sur lequel je vais revenir, qui est le cœur de l'organisation économique de notre système. Ce que je voudrais faire avant d'arriver à ce point, c'est questionner le projet moderne sur le fond. Parce que, effectivement, poser le problème du progrès n'est absolument pas un sujet sur le bord, puisqu'il interroge le dualisme. On a séparé la matière de l'esprit, et faisant cela, la matière est dénigrée. Alors, j'ai envie de vous lire quelque chose qui me semble très intéressant, qui fait partie d'un recueil de textes écoféministes. Je ne suis pas du tout féministe, mais je m'intéresse à ce sujet de plus en plus. Parce que je crois que destruction de la nature va avec mépris du féminin, va avec la colonisation, va avec un principe d'oppression. Et je vais vous citer le début d'un texte de Suzanne Griffin, qui considère qu'il y a comme des tables de la loi qui ont été mises en place dans notre projet moderne. Il est décidé que la matière est transitoire et illusoire, comme les ombres sur un mur projetées par la lueur du feu, que nous habitons dans une caverne, dans la caverne de notre chair, qui est également matière, également illusoire. Il est décidé que ce qui est réel se situe en dehors de la caverne, dans une lumière plus brillante que ce que nous pouvons imaginer, que la matière nous piège dans les ténèbres, que l'idée de la matière existait avant la matière et est plus parfaite qu'elle, idéale. L'idée supérieure à la matière. Alors, c'est très problématique parce que ce surplomb sur la nature nous a amené à une logique de prédation, une posture coloniale, comme je viens de le dire, une opposition nature-culture qui est complètement erronée parce que là, l'écologie que nous essayons de faire progresser depuis maintenant plus d'un siècle, un siècle et demi, l'écologie est née dans les années 1860, eh bien, elle a vocation à être écologie relationnelle, puisque avant elle est née une autre discipline qui s'appelait la mésologie, qui est une discipline qui met en valeur la science des milieux. Nous sommes interdépendants. Nous n'existons pas par nous-mêmes. Nous n'existons que par rapport à un milieu qui nous permet de nous déployer. Il y a des potentialités en nous qui s'expriment par le métabolisme et par l'échange avec l'extérieur. Ce qui fait que la valeur principale de nos sociétés ne repose que sur une chose, le maintien des écosystèmes. Et nous n'avons pas de discussion à avoir sur ce sujet-là, puisque ça n'est pas négociable. Nous ne vivrons pas sans milieu de maintenance et d'entretien de notre pour se nourrir et pour respirer, etc., etc. Et le problème, c'est que politiquement, la conservation, puisque je parle de maintien, politiquement, la conservation est du côté de la droite, et que le progressisme est du côté de la gauche. Et donc, il y a un énorme problème politique qui se traduit, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, après les élections européennes, par une très bonne nouvelle, c'est que les jeunes, effectivement, comprennent que le politique, ça compte, et que l'écologie, ça compte. Et que ça sera pas négociable et que c'est cela qui va reconfigurer notre manière de penser. Si vous avez lu le livre de Bruno Latour, il parle pas seulement d'apocalypse, il parle d'atterrir et il parle de nouveaux champs de force qui sont plus entre cette opposition progressisme ou conservation. Aujourd'hui, vous avez en face des bioconservateurs une tendance qui est celle des transhumanistes, qui traite effectivement des Jean-Michel Beignet de bioconservateurs, qui est bien content d'ailleurs de l'être, parce que eux, du côté des transhumanistes, continuent à être dans la modernité tout droit, croire à la technique aveuglément, une technique qui est devenue totalement hors sol, puisque la technique suprême que nous avons, c'est la technique financière avec ses algorithmes. Donc cette économie de la promesse, qui dit même qu'on va réparer la planète, qu'on va même ensemencer les océans pour faire des puits de carbone, c'est totalement n'importe quoi. On ne sait pas du tout ce qu'on fait quand on va dans cette direction. Les technologies, si on n'est pas capable de les tenir, de les gérer, on voit ce que c'est, ça donne les plastiques dans les océans. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un nouveau régime de technique, puisque nous avons la science qui s'est alliée aux techniques, au champ technologique et au marché. Donc, nous avons un technomarché. Et je crois que nous n'avons pas compris à cet endroit où nous en étions du point de vue du contrat social avec les sciences et avec les techniques. Et je crois que les citoyens ont été abandonnés, trahi, laissé pour compte par rapport à une technologie qui répond au marché, qui s'aligne au marché. Je pense véritablement que nous avons des OGM simplement parce que ça permet d'accaparer les gènes. Ça n'est pas du tout judicieux, la modification du vivant comme le proposent les OGM. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de faire fonctionner les organismes collectivement. On le sait bien que on a des gains très importants si on met des espèces et si on mise sur de la diversité. Alors, le sujet politique qui va donc nous intéresser si on veut parler de progrès, ça va être d'entrer dans cet âge du vivant, comme dirait Corinne Peluchon, en mettant le vivant au centre et en regardant si les techniques sont biocompatibles. Alors, c'est assez compliqué de regarder une à une, mais je pense que ça peut être notre boussole pour le Sud comme pour le Nord. Et très curieusement, d'ailleurs, le Sud a des propositions pour le Nord, ou des propositions pour eux-mêmes, puisque je prends l'exemple de Navi Raju, qui est un Indien, qui est le spécialiste de l'innovation frugale. Et donc, il suffit effectivement de faire plus avec moins, d'être judicieux, d'être sobre et de trouver des solutions qui parfois sont beaucoup moins onéreuses. On n'a pas forcément besoin de multiplier des fonctions dans des téléphones portables dont on ne sait même pas toutes les fonctionnalités proposées. Alors ce nouveau contrat social qui peut aller vers une proposition de progrès qui émerge, comme je le dis, ça n'est pas une sorte d'injonction que je porte là ou de Yaka Faucon, pas du tout. C'est en observant et en préparant le livre que j'ai publié donc sur l'urgence du vivant, j'ai constaté que le monde a déjà changé, c'est-à-dire que les acteurs mobilisés dans le monde d'après sont déjà en train d'avoir des business models différents, des type d'investissement collectif différent et qu'il réinvente pas à pas les modes de formation, les modes d'association, et qu'ils ont comme souci un progrès basé sur la relation. J'ai parlé d'écologie relationnelle. Face à la complexité et à l'incertitude, quelle autre possibilité avons-nous que l'intelligence collective, que compter les uns sur les autres, que de faire alliance entre masculin et féminin, que de mettre ensemble rationalité et, je ne veux pas dire irrationalité, mais simplement intuition. Einstein a été un des premiers à dire l'importance de l'intuition. Et nous avons devant nous les défis majeurs qui sont la sécurité alimentaire qui va avec la sécurité humaine, qui intéresse particulièrement Patrick Vivret. Nous avons la question de l'autonomie qui est très ambivalente aujourd'hui puisqu'on a l'impression qu'on augmente l'autonomie des machines en diminuant l'autonomie des êtres vivants ou même des humains dans les entreprises. Qu'on peut se demander si véritablement nous avons encore la possibilité d'avoir une politique qui oriente nos politiques publiques, véritablement les technologies au service de l'humain, technologies au service du vivant. La structure que je dirige s'appelle Tech for Life. Vous savez, il y a Tech for Good, Tech for Climate. Tout le monde essaye de trouver une vocation aux technologies. Il me semble que nous sommes au monde dans une idée de servir la fécondité du vivant. Et c'est possible. Et pour moi, c'est très, très bien, j'arrive au terme de la présentation. Il y a des signaux très encourageants qui vont aussi dans ce sens du point de vue de la vision philosophique. C'est la proposition d'Hartmut Rosa d'un homme raisonnant, d'un homme en résonance. Son dernier livre s'appelle « Résonance ». C'est une personne qui est juste le contraire de la personne atteinte de burn-out. C'est la personne pour qui le monde résonne, qui agrandit son espace de conscience parce que il arrive à être poreux au monde, à être en réception de ce qui se passe dans son environnement. Et c'est vrai que nous avons des pratiques dans nos modes de vie qui nous éloignent peut-être de plus de sensations, de plus d'attention aux autres, de plus de sympathie ou de résonance. Et donc, on peut voir le progrès avec Hartmut Rosa comme une participation et non pas une transformation du monde, une participation au monde, une contribution, une coopération, faire avec les autres, faire affaire avec le vivant, avec l'existant. C'est ce que disent beaucoup d'artistes en ce moment, si vous avez vu l'exposition « La fabrique du vivant », on voit cette démarche-là. Et tout ça se traduit dans un certain nombre de multitudes d'initiatives pour revenir à la terre, revenir au corps, dépasser cette modernité vers des nouvelles valeurs d'initiatives, manger sain, local, refaire du lien, prendre soin, les villes en transition, les fermes d'avenir, l'alliance pour la régénération, les tiers-lieux, enfin, vous voyez, les living labs, les recycleries. Et puis, ce moment quand même assez formidable que nous vivons depuis 6 mois, avec les jeunes qui se réveillent, puisqu'ils ont créé ce mouvement pour le réveil écologique. Ils sont mobilisés dans la bascule autour de Maxime de Rostolan. Ils font ces grèves tous les vendredis. Et ils disent « I want you to panic ». Ça, c'est les termes de la jeune suédoise. C'est-à-dire « bougez-vous, puisque notre futur, il est dans vos mains ». Donc, il y a vraiment une responsabilité. C'est moi qui ai frappé. C'est l'orage. Excusez-moi. Donc pas de panique, pas de panique. pas de panique. Voilà, j'en ai à peu près terminé juste pour dire que on pourra rediscuter des métamorphoses industrielles qui sont aussi très présentes, dont on pourra reparler parce que c'est pas du tout anecdotique les transformations qui sont en train de se passer, les imaginaires qui sont en train de changer. On peut penser que les gens sont un peu fascinés par la collapsologie, l'effondrement, mais ou les catastrophes. Il y a un effet de sidération ou de fascination. Justement, l'espérance, pour terminer, c'est de ne pas rester collé sur ce qui est tangible ou au-devant de la scène médiatique, parce que nous pouvons lire des signaux faibles, nous pouvons lire ce que les gens sont capables de déployer dans le monde associatif. Nous pouvons voir que, au-delà même de toutes ces dynamiques, il y a des acteurs qui proposent des cadres de pensée économique différents. Et juste pour terminer, j'y tiens beaucoup, je m'intéresse beaucoup à la question de la comptabilité, parce que on voit que dans le rapport Nota Sénar, il a été dit que notre système était aveugle à la destruction, aux destructions écologique ou humaine d'ailleurs. Eh bien, pourquoi ? Parce que dans notre système comptable, ce qui est mis au passif, c'est le capital financier, tout seul. On prévoit l'amortissement de ce capital financier. Comme si la seule chose qui était importante pour une entreprise et pour une organisation, c'était cette dimension. Or, Jacques Richard, professeur d'économie à l'Université Dauphine, et Alexandre Rambaud, qui dirige la chaire pour la comptabilité écologique à AgroParisTech, propose un système alternatif qui est de plus en plus observé, qui fait l'objet d'ailleurs de mobilisations des ministres qui demandent aux autorités des normes comptables de revoir un peu les possibilités de changement. Ils proposent un modèle qu'ils appellent CARE, qui est une comptabilité qui considère deux nouveaux capitaux, le capital humain et le capital naturel, qui est mis aussi au passif, et pour lequel on comptabilise effectivement le maintien de ces capitaux, c'est-à-dire qu'on va prévoir leur amortissement. C'est-à-dire que dès lors, on est vraiment cohérent, c'est-à-dire si on dit qu'on tient à la nature, si on dit qu'on tient à l'habitabilité de la Terre pour les générations futures, il faut changer notre comptabilité.
Merci beaucoup à Dorothée Brouwers. Pardon tout à l'heure de n'avoir pas saisi la subtilité du nom de votre entreprise, Tech for Life et pas Tech 4 Life. Je vous prie de m'en excuser. Mon maniement de l'anglais est fort défectueux. J'ai envie, mais vraiment en une minute, pas plus, de vous demander, Jean-Michel Debras, de réagir à la présentation de Madame Brouwers, parce que vous avez travaillé pendant des années pour une agence qui s'appelait l'Agence pour le développement. Et moi j'ai été étudiant il y a longtemps, mais c'était quelque chose que nous étudions, les livres de Tibor Mand, les pays d'abord en voie de développement, puis ensuite les pays en développement. Ça a encore un sens, cette notion de développement, ou pas?
Oui, allez-y. C'est lui le fauteur de troubles. Oui, donc, si le mot développement veut au moins dire, non pas de rattraper le niveau de vie, mais d'apporter, parce que c'est là qu'on est aujourd'hui en Afrique, hein, et dans d'autres pays du monde d'ailleurs, pas seulement l'Afrique. Aujourd'hui, on a des centaines de millions d'hommes qui vivent dans le dénuement sur des choses élémentaires. L'alimentation, l'eau potable, on ne peut... Donc, il y a un besoin de développement. Au moins, le mot développement veut dire cela. Au minimum. Alors, qu'après, il faille réinventer les concepts même de développement, notamment la lumière des questions écologiques. Bien sûr, qu'il faille, notamment, j'ai bien aimé la conclusion sur la comptabilité, parce que c'est effectivement une question qui est au cœur des choix qu'on fait dans une banque de développement, où on ne fait pas que la comptabilité classique, qui consiste à calculer le rendement du capital, mais à s'intéresser aux autres capitaux, au capital naturel, au capital humain, etc. Sachant que pour un développeur, c'est tous les capitaux qu'il faut développer et non pas un d'entre eux.
Merci beaucoup. Et j'ai bien fait exprès de ne pas utiliser l'expression qui nous était enseignée il y a 40 ans, qui était celle de pays sous-développés. Voilà. Hein, je ne crois pas qu'elle ait encore un sens quelconque aujourd'hui. Merci à vous deux pour cette présentation qui nous a donné malgré tout des raisons d'être un petit peu optimistes malgré l'orage vers l'été qui approche. Merci beaucoup.
Donc, ce n'est pas fini. Nous ne sommes plus à la radio, donc vous pouvez vous dire ce que vous pensez. Un micro va circuler. Nous allons prendre, comme d'habitude, deux ou trois questions, des paquets de deux ou trois questions à la fois. Nous avons une demi-heure devant nous. Voilà, donc les micros descendent. Alors, quelles sont les premières questions ? Vous avez au début.
Un citoyen retraité. Je suis surpris par le fait qu'aucun des deux intervenants n'a évoqué la question de la démographie, qui est pourtant à l'origine de toutes les difficultés. La question, c'est la planète porte actuellement 6-7 milliards d'habitants, on ne sait pas très bien combien. Quand j'avais 7 ans en primaire, on m'apprenait qu'il y en avait 4 milliards. Ça remonte à quelques années. Et lorsqu'on se livre à des projections démographiques sur certains pays, notamment sur l'Afrique, là, on prend carrément le vertige. Donc la vraie question, c'est les arbres ne peuvent pas croître jusqu'au ciel. On a probablement atteint une saturation démographique sur cette pauvre terre qui n'en peut plus. Et si on ne trouve pas une méthode tempérée l'ardeur de nos congénères à se reproduire, il y aura forcément quelque part des ruptures. C'est darwinien, si j'ose dire. Je suis d'ailleurs surpris qu'on n'ait pas évoqué Darwin, parce que la raison d'espérer, elle est dans Darwin. Nous sommes des êtres darwiniens, comme tous les autres. Nous faisons partie d'écosystèmes, de systèmes qui évoluent de manière darwinienne. La nature ne raisonne pas de manière logique. La nature procède par tâtonnement. Certains tâtonnements confèrent à ceux qui l'ont fait un petit avantage, les autres un désavantage. Et l'accumulation de tout ceci fait que ça bouge. La raison d'espérer est là-dedans. Alors, je reviens à la démographie.
Attendez, oui, rapidement, parce que nous... Voilà, très bien, merci.
Qu'est-ce que vous pensez de la démographie ? C'est quand même le problème numéro un.
Très bien, merci. Alors, ensuite, on a une deuxième question.
Ce qui m'a frappé, c'est que ce qui d'un côté était constitué à les raisons d'espérer, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies fantastiques, digitales, télécom, énergie renouvelable, enfin, etc., tout ce que ce monde occidental porte d'excellence en matière technologique, ça semble être une raison désespérée de l'autre côté, du côté de Madame Brovaes. De même, vous avez dit, les financements sont absolument fondamentaux. Voilà, d'un côté, et d'autre côté, on dit la comptabilité de l'argent, des capitaux, c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir de notre vocabulaire. Donc il me semble qu'il y a une contradiction là. Voilà.
Merci, ils vont s'expliquer tout à l'heure là-dessus. Y a-t-il une troisième question ? Bon, écoutez, s'il n'y a pas de troisième question, restons des deux premières. Alors, la démographie. Je me tourne vers Jean-Michel Debras, qui a fait allusion quand même un peu à la démographie. Hein.
En mots, c'est tout à fait exact. Hein. Mais parce que je voulais pas me, je voulais rester dans mon sujet. Alors, d'abord, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler d'abord d'Afrique, c'est justement en raison de son évolution démographique. Cela dit, et il y a une sorte de consensus qui est peut-être pas la vérité, mais chez les développeurs, qui est que la démographie a deux caractéristiques. La première, c'est que une fois que les résultats sont acquis en termes de natalité, etc., le train est parti pour des années et des années, et on ne peut plus il y a une inertie extraordinaire. Il n'y a rien de plus prévisible à moyen terme que la démographie. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que les politiques ne s'en aperçoivent pas. C'est vrai pour nos régimes de retraite. Hein, il n'y a rien de plus prévisible que l'évolution démographique et ses conséquences sur les régimes sociaux. Et pourtant, plus tard on réforme et mieux c'est. Enfin, c'est la même chose pour l'Afrique. En même temps, sur le long terme, ce que nous, les développeurs, ont tendance à observer sur le parce que les transitions démographiques, beaucoup de continents sont passés avant l'Afrique. Donc la question de la transition démographique est un phénomène qui est connu. La question en Afrique, c'est que cette transition démographique ne se déclenche pas. On a manié des euphémismes en disant c'est en retard. Non, elle ne se déclenche pas. Elle ne se déclenche pas parce que c'est à la fois un déterminant sur l'avenir et c'est en même temps une conséquence de tout le reste. C'est-à-dire que l'observation des transitions démographiques sur les autres continents ont trouvé des explications qui n'étaient pas de nature démographique. Le comportement démographique résulte de tas d'autres facteurs économiques, juridiques, politiques. C'est extrêmement documenté, notamment quand on compare les évolutions démographiques des différents pays européens, qui est un laboratoire extraordinaire, de voir pourquoi les pays européens ont connu des rythmes d'évolution démographique différents. Et c'est quelque chose. Alors, donc pour revenir à l'Afrique, les développeurs ont tendance à considérer que ce sont tous les autres facteurs du développement qui modifieront la donne, mais évidemment avec une hystérésis extraordinaire, puisqu'il y a 30 ans d'écart entre les deux. Mais on ne croit pas, ce qui fait que les prévisions en 2050, voire au-delà, je ne dirais pas qu'elles sont pessimistes, elles mettent la barre très haut, parce qu'on sait qu'il y aura X milliards d'hommes qu'il faudra nourrir, qu'il faudra employer, qu'il faudra former, etc. etc. Et c'est parti. C'est parti. À propos de l'éducation, j'ai également fait une allusion à la démographie en observant que, tel que la démographie africaine était partie, les systèmes éducatifs étaient infinançables. Infinançables. Donc il faut complètement changer le paradigme. Voilà. Donc voilà ce que je crois. C'est-à-dire que c'est une donnée pour ce qui va se passer dans les 30 années qui viennent. Cette donnée n'évoluera, enfin, en tout cas, c'est ce que croient les développeurs, que par un changement, et c'est là que je rejoins madame, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction, l'impasse dans laquelle on se trouve en Afrique montre bien qu'il faut complètement changer les règles du jeu. Alors, sur la question maintenant de la comptabilité, je ne suis pas sûr, mais peut-être on va répondre tous les deux, je ne suis pas sûr qu'il y ait contradiction. Ce qui est certain, c'est qu'il faut on ne peut pas ne pas financer des investissements. La question, c'est comment on les finance et comment on les choisit, ces investissements. Aujourd'hui, la grande masse des investissements mondiaux se trouve concentrée sur les pays, alors qu'on va appeler développés, parce que, sur les pays qui sont déjà... Bon, pour des raisons qui tiennent au raisonnement des marchés. Donc, on ne peut pas ne pas dire qu'il ne faut pas financer. Moi, je ne sais pas parler de développement sans financement du développement. Mais la question, c'est que les modalités de ce financement sont dévoyées. Et alors, ils sont dévoyés au point qu'on n'a pas les outils, et je rejoins complètement Mme Brovais, on n'a pas les outils de comptabilité, enfin en tout cas, les opérateurs qui prennent les décisions sur les marchés, dans les banques de développement, on essaye de pallier ça, mais n'ont pas les outils qui leur permettent de voir les décisions qu'ils prennent, les vrais impacts des décisions qu'ils prennent. Il y a un seul impact qui les intéresse, c'est le rendement et à court terme. Bon, c'est très connu, je dis des choses. Mais alors, quand on est dans une banque de développement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de dire, nous allons financer telle nouvelle technique agricole. Qu'est-ce qui va se passer dans 20... Alors non, déjà, on s'intéresse pas à 5 ans. Le temps normal de raisonnement d'un projet, c'est entre 10 et 30 ans. On rallonge. Bon, on ne sait pas aller beaucoup au-delà, mais c'est déjà un élément important. Le deuxième élément important, c'est qu'on met côte à côte, faute de mieux, d'autres paramètres que le rendement financier. Une banque de développement ne finance pas un investissement si on ne s'aperçoit pas qu'il y a un retour sur investissement. Même une banque de développement fait cela. Pour une raison simple, c'est que ce n'est pas développé que de développer à perte. Donc, faut pas. En revanche, c'est pas le seul critère. C'est, je dirais même, le critère négatif. Il faut qu'il y ait un rendement minimum, mais la barre est pas à 15, mais à 2 ou 3. Ça change tout. Deux, on raisonne à 15 ans ou 20 ans, ne serait-ce que parce que les prêts des banques de développement sont des prêts à 15 ans, 20 ans, 30 ans, donc on fait bien les calculs à 20 ans. Et troisièmement, on met d'autres critères. Pour prendre l'exemple d'un investissement agricole, la première chose qu'on regarde, c'est que devient le capital naturel de la région dans laquelle on fait cet investissement. Est-ce que les sols, dans quel état seront les sols, et donc le capital des sols, le capital de production, est-ce qu'il sera diminué ou pas? Alors, on fait cela parce qu'on a eu aussi des déboires. Chacun sait que dans certaines régions du monde, on a développé à outrance certains types de cultures mécanisées avec force engrais, etc. Et qu'en fait, on a vidé la richesse du sol. Mais on s'en est aperçu 20 ans après. C'est des erreurs qu'on a faites, mais qu'on ne fait plus. Parce que l'expérience a appris le... Donc aujourd'hui, alors je prends l'exemple de l'agriculture, mais on peut les multiplier. Donc c'est là que je crois pas qu'il y ait de contradiction. On ne peut pas ne pas financer un investissement. Il faut donc bien mobiliser des capitaux. Mais comment juge-t-on de la pertinence du choix, de la répartition des choix et de la pertinence du choix? Et c'est là qu'il y a des divergences avec la finance actuelle.
Dorothée, y a-t-il une contradiction entre vous sur,
oui, alors sur l'usage de la technique, je vais y venir, mais juste sur la démographie, je voudrais juste dire un mot, parce que la question de la fertilité humaine est extrêmement un sujet très important. Je ne comprends pas que les démographes n'en parlent pas plus que cela. La fécondité du sperme a chuté de moitié en 40 ans. Les prévisions de l'OMS disent que dans 30-40 ans, l'humain sera plus fertile. Donc, on est darwinien, là. Les travaux de Skekebeck sont très clairs. Il a publié... voilà. Donc, on est dans... Et c'est vrai pour les pays occidentaux. Donc... il va y avoir des inégalités, et peut-être, sur ces sujets-là. Donc, c'est juste une remarque que je voulais faire, qui est peu évoquée dans l'espace public. Je crois que ça fait très peur. Voilà. Alors, sur la question de monsieur, si j'ai donné l'impression que l'innovation en tant que telle et le progrès au sens concret, hein, de l'innovation technique, était hors de propos pour l'avenir, je pense m'être mal exprimée, parce que il y a une simplification dans l'espace public de dire oui, tout ce qui est, enfin, une sorte de polarisation entre ah oui, low tech, high tech, comme si on ne pouvait pas faire la conversion vers une innovation écologique avec des high-tech. Bien sûr que si, on peut faire avec du high-tech, on peut utiliser des organismes génétiquement modifiés pour faire travailler des algues ou des micro-organismes dans des containers pour faire des médicaments ou tout autre produit, même des carburants, tout ce qu'on veut. C'est tout à fait intéressant. Donc, de même pour l'intelligence artificielle. Là où on a un problème, c'est la biocompatibilité. Parce que si vous prenez l'exemple de la chimie, par exemple, le monde de la chimie est très peu enclin à bouger et à évoluer, parce que il y a des rentes par une chimie qui a 100 ans d'âge et qui fonctionne avec le pétrole. Pourquoi voulez-vous que les acteurs aient envie d'aller faire de la chimie avec des biomasses? Or, il y a plein de solutions. J'en parle dans mon livre, il y a l'Anzatec qui fait manger à des bactéries le monoxyde de carbone qui sort des métallurgies ou des entreprises pétrolières, donc dans le raffinage. Donc on peut faire manger, on peut faire fixer, manger ce monoxyde de carbone à des bactéries pour produire des molécules de valeur ajoutée. On a des tas de solutions avec des algues, on peut utiliser des micro-organismes, on peut faire travailler les organismes vivants et utiliser les biomasses pour faire des peintures nouvelles, des matériaux d'habitat nouveaux, du béton avec du chanvre, des choses tout à fait intéressantes. Simplement, ce qui est très net, et je fais d'ailleurs un événement là-dessus le 26 juin à AgroParisTech, aller vers une chimie nouvelle avec les organismes vivants, c'est apprendre des nouvelles modalités. Et évidemment, les chimistes, ça veut dire convertir tout un tas d'équipements, de manières de faire, d'équipes, etc. Donc ça peut pas se faire rapidement. Par contre, on voit très bien qu'il y a une très forte demande de la génération qui sort des grandes écoles pour ce genre de solutions. Donc voilà. Alors, quant à la question de la comptabilité ou de l'économie, je pense qu'au contraire, la question maintenant, c'est de faire un capitalisme beaucoup plus, comment dire, précis, qui ne soit pas déséquilibré. C'est très clair, c'est dans les termes de Jacques Richard et de Alexandre Rambaud, la démarche de cette méthode CARE n'est pas de sortir du capitalisme, c'est de le remettre d'aplomb. Et je voudrais juste faire référence aussi aux travaux de Nicolas Boulot, qui sont des travaux tout à fait importants, qui rejoignent ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que les marchés ne donnent pas les signaux, le signal prix ne fonctionne plus du tout. C'est-à-dire qu'il y a plus rien pour dire la valeur des biens et leur rareté. Il y a une sorte de fonctionnement qui ne dépend plus de ces choses-là. C'est la spéculation qui joue. On le voit même sur les denrées alimentaires. Ce qui est très, ce qui crée les famines qu'il y a eu il y a quoi, 6 ou 7 ans. Nicolas Boulot a publié ce livre qui s'appelle Les mensonges de la finance, préfacé par Gaël Giraud. Et ça me semble tout à fait intéressant que des économistes montrent que, en fait, le système qui se dit scientifique est en fait une organisation d'une certaine vision du monde, comme la comptabilité. Et que il y a dans ces organisations des présupposés à révéler dans l'espace public pour en faire débat public, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'on donne de la valeur, qu'est-ce qu'on met effectivement au passif comme capital à rembourser, c'est-à-dire ce à quoi on tient. C'est juste ce point-là que j'ai insisté là-dessus, sur le fait que on doit ouvrir le capot en fait de notre économie et réviser le moteur. C'est plutôt dans cet état d'esprit que je me suis exprimée.
Merci. Alors nous reprenons d'autres questions. Alors y a-t-il d'autres questions? Attendez, si patientez quelques secondes, si d'autres mains se lèvent dans la salle. Oui. Quatrième rang.
Moi, je trouve intéressant là, qu'on évoque voilà, les questions de finance après avoir parlé des questions écologiques. Mais après, enfin, donc on voit qu'il y a des travaux qui se font, mais en fait, d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on voit pas. Comment le système, comment le système va évoluer, quoi. Comment ces idées-là qui commencent à émerger vont réussir à faire leur chemin et vont réussir finalement à s'imposer d'une certaine manière. Comment finalement on va faire passer en premier l'idée que on va arrêter de faire fonctionner l'économie avec, peut-être des entreprises qui ont des projets, mais finalement qu'on va avoir une société qui va avoir le projet de préserver la planète. Et donc, on va faire fonctionner l'économie sur ce principe-là, quoi. Voilà.
Merci. Alors, allez dans le fond. Après ça, on va revenir au début.
Un autre aspect, la question, c'est l'attitude des politiques dans cette affaire, parce que. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ou au Brésil, on est complètement à l'envers de ce que vous préconisez. Enfin, ils font exactement l'inverse de ce qui devrait être fait dans ce domaine, dans le domaine de la nature, du climat, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, c'est une réalité dont il faut tenir compte aussi, la réalité politique.
Merci. Alors, il y avait une troisième question devant. Voilà, levez la main, relevez la main. Voilà, on en restera là.
Merci. Une question pour revenir à l'Afrique. Ce que vous avez dit, en effet, comme malgré les conclusions un peu ambivalentes, disons, vaut pour l'Afrique au sud du Sahara. Qu'en est-il de l'Afrique au nord du Sahara? Puis j'ai une autre question pour madame. Bravo pour aller à AgroParisTech bientôt à la fin du mois. Je suis moi-même un ancien d'AgroParisTech. Ancien directeur, je sais pas, peu importe. Mais là, vous avez parlé tout à l'heure en termes politiques entre conservatisme, progressisme et l'écologie au milieu. Vous avez cité les années 70, vous n'avez pas rappelé que la création du ministère de l'Environnement remonte justement à 1970, exactement même, du temps de M. Chaban-Delmas et du président Pompidou. Et l'évolution, y compris récente, montre que malheureusement, cette conception de l'environnement au sens vrai du terme, écologie au sens vrai du terme, on a fait de l'écologie une politique avec un petit P, si me permet de le dire comme ça, bon, alors que ça restait au départ conception générale qui devait traverser, que ce soit les conservateurs ou les progressistes, peu importe, socialistes, hein, etc. Non, le problème c'est que l'écologie devait être une prise de conscience générale. Comment se fait-il que ça n'ait pas fonctionné?
Voilà, merci. On restait là. Donc, merci de la réponse. Je me permets juste de rajouter, donc, cette journée du 26 juin. Vous avez l'inscription sur le site Tech for Life. Je me trompe pas. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, j'ai une petite page de publicité. Alors. Il y a trois questions.
Bon, on va apporter quelques éléments.
Sur la façon de... des conditions de cette mutation politique.
Oui, oui, voilà. Je crois qu'on n'en a pas parlé effectivement jusqu'à maintenant, mais on y arrive. C'est la dimension politique de tout cela, c'est clair. Enfin, mis à part la question sur l'Afrique du Nord, dont on parlera tout à l'heure, mais... c'est effectivement la dérégulation générale qui s'est produite comme une lame de fond depuis une trentaine d'années. C'est pas récent. On en parle beaucoup depuis 5 ans, mais en fait, le mouvement est parti dans les années 60, hein, 70. Non, pas 60, 70. Dans les années 70. Et non seulement les détenteurs de capitaux ont les pouvoirs liés à leur statut de détenteurs de capitaux, mais il y a eu un mouvement général qui fait que les options et les théories économiques qu'ils nourrissent ont balayé la plupart des autres courants. Les conceptions libérales sur le mode de régulation financière de l'économie se sont imposées, pour prendre l'exemple de la France, jusque dans le Saint-Dessein de ce qui devrait être la politique économique publique, qui sont les grandes directions du ministère des Finances. Donc, il y a, depuis une vingtaine d'années, que ce soit dans les universités, dans les appareils d'État, toutes les positions de la finance sont considérées comme acquises. Il n'y a pas de véritable contraction. Il y a des gens qui pensent le contraire, mais de manière institutionnelle, il n'y a plus de débat. Regardez ce qui s'est passé par exemple sur le fameux traité de Maastricht, rejeté par des référendums, revenu par la bombe. Donc, le système politique n'est plus en état, depuis déjà un bon nombre d'années, d'offrir un contrepoids. Alors, il y a des exemples extrêmes effectivement en Amérique en ce moment, mais le système politique n'est plus en état de servir de contrepoids au marché. D'ailleurs, cette expression de marché est très curieuse, parce que on ne dit pas, on dit le marché comme si c'était une entité théorique, abstraite. Non, le marché, c'est quelques milliers de personnes, concrètement. Ou à l'échelle du monde, il doit y avoir 1 million de personnes qui sont le marché, et quelques milliards d'autres qui sont des citoyens ordinaires, si j'ose dire. Et qui font partie... Oui, mais quand on dit le marché, dans le sens, c'est ce que pensent les détenteurs de capitaux qui sont des opérateurs sur les marchés financiers. Il n'y a plus d'alternative. Alors, donc, comment faire ça pour... Comment, je crois que c'est seule la prise de conscience, et malheureusement, pas seulement la prise de conscience, même quand on est dans des situations de catastrophe, on se rend compte que la leçon n'est pas tirée. Par exemple, les dysfonctionnements des salles de marché au moment de 2008. Bon. Ça a été analysé, dit, écrit. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Rien. Rien. C'est-à-dire qu'ils ont fait le gros dos, ils sont arrivés à leur fin. C'est-à-dire que la leçon de l'expérience n'a pas été tirée. On en est là. On en est là. Et tous les régulateurs de banques savent ce qui s'est passé dans les banques à ce moment-là. Est-ce qu'on a remédié aux principaux dysfonctionnements ? Non. Donc on en arrive effectivement à la politique. Je ne sais pas. Je suis très au-delà de mais on en arrive effectivement à la politique. Comment va-t-on faire passer, comme des termes de négociation dans un rapport de force, toutes les considérations qui sortent des multiples rapports sur le climat, sur la biodiversité, sur tous les éléments de la catastrophe sont documentés aujourd'hui, enfin tous. Ils sont documentés. Et ça ne bouge pas. Voire, il y a des évolutions régressives, complètement régressives, comme ce que vous citiez, madame, sur les États-Unis et le Brésil. Où là, on est objectivement dans une situation de régression qu'on jugeait inimaginable. Après, là, c'est de la prévision de ce que va devenir la gouvernance du monde. Mais en tout cas, je suis d'accord. Quand il n'y a plus de débat, parce qu'il n'y a plus de force en état de débattre, on a le résultat dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Un mot très rapide sur l'Afrique du Nord, et puis on laisse madame.
Oui, alors, il y a une différence de degré, évidemment, mais la situation est extrêmement tendue en Afrique du Nord, puisqu'on n'arrive pas, bon, c'est pas du tout le même niveau de drame, si j'ose dire, humain que dans l'Afrique subsaharienne. Ceci dit, le constat fondamental, et on revient à la démographie d'ailleurs là, qu'on n'arrive pas à inventer une croissance économique qui permettent d'absorber la croissance démographique, même en changeant les technologies, parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'il y a toute une panoplie d'innovations technologiques qui permettent de concilier les perspectives environnementales et les perspectives de production. Bon. Malgré tout, le décalage qui est moindre en Afrique du Nord que en Afrique subsaharienne est de même nature. Donc on ne sait pas où on va. Simplement, on est dans des états à très forte tradition politique, à grosse structuration. Il n'y a rien à voir entre la structuration de l'État marocain ou même algérien, d'ailleurs, avec tous les défauts qu'il a. Ça n'a rien à voir avec la manière dont, enfin, je citerai pas de pays, enfin, dont est dirigé le Congo. Donc, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le monde. En même temps, ce sont bien des phénomènes analogues qui sont à l'œuvre.
Oui, on pose le débat à un niveau assez fondamental ici. Sur la question donc de comment faire changer le système sur la comptabilité, voilà, on dit qu'il y a une proposition, on se dit bah oui, c'est très très marginal, ça va rester là dans un coin et voilà. C'est pas si sûr au sens où qu'est-ce qui est problématisé par rapport à la comptabilité, c'est le problème des externalités. En fait, depuis fort longtemps, les externalités, c'est dans notre mental, le fait que, on peut éliminer les choses, ça n'apparaît plus sous nos yeux, ça n'existe plus. Bon. À partir du moment où on est en train de commencer à inverser le système de dégradation d'environnement, essayer d'inverser la tendance, à demander à faire des gaz du biométhane, par exemple. Eh bien, vous avez GRDF qui s'adresse à l'État, qui dit « Mais comment je vais pouvoir valoriser ce procédé plutôt intéressant qui permet de nous affranchir du pétrole alors que ça coûte 6 fois plus cher à produire ?» Donc, ils cherchent à valoriser leurs externalités positives. Face à eux, il y a ceux qui ont des externalités négatives, qui n'ont pas de compte à rendre. Eh bien, le problème se pose justement, c'est que si on ne remet pas les choses d'aplomb, on n'a aucun effet possible d'encourager les démarches vertueuses. Donc les gens qui sont en train d'aller vers la transition écologique ont une revendication très forte vis-à-vis des États pour que on reconnaisse l'intérêt de leur démarche. Ça va aussi, c'est tout aussi vrai pour l'agriculture. À partir du moment où vous n'avez plus, vous diminuez les problèmes de santé sur les agriculteurs ou les problèmes de pollution des eaux par les pesticides, bah, vous êtes léger des charges qui pèsent aujourd'hui sur l'État. Parce que la tradition, si je puis dire, est que les industriels font ce qu'ils ont à faire, mais qu'en fait, du point de vue de l'intérêt général, eh bien, la dépollution, elle est assurée essentiellement par les pouvoirs publics. Donc on peut pas avancer dans notre transformation sans cela. Ce qui peut aider à bouger, c'est que les fonds d'investissement vont être demandeurs, les assureurs vont être demandeurs parce que vous savez les destructions, les incendies de forêt en Californie, ça a quand même coûté l'effondrement de l'équivalent d'EDF là-bas, hein, responsable énergétique. Voilà. Donc il y a des craintes très fortes pour certaines entreprises de rester comme ça sans assurer leurs arrières. Donc voilà, c'est peut-être insuffisant, mais c'est ce que je voulais dire par rapport à cette chose-là. Et il semble que d'un point de vue des politiques, des ministères, la préoccupation sur les externalités qui a fait l'objet d'un rapport au ministère de l'Agriculture l'an dernier et l'interrogation sur les normes comptables demande du côté du ministère de la Transition écologique et solidaire et demande de Bruno Le Maire aussi pour le G7 environnement et pour le G20 prochainement. Donc ça, on voit bien qu'il y a un souci. Donc on peut penser que ce sujet va pouvoir être poussé. Ensuite, sur les pouvoirs en général, et je crois qu'il faut parler quand même des GAFA, c'est-à-dire que le système de le cyberespace est un système en fait de récupération de la valeur dans le monde numérique. C'est vrai, on le voit pour les transports, pour tous les services qui sont proposés et qu'on connaît bien, mais ça va être de plus en plus vrai dans l'agriculture, où l'agriculture numérique va aussi permettre, entre guillemets, l'accès aux bases de données, au comportement, en fait, au choix des agriculteurs, et une sorte de pilotage de leur choix par les coopératives agricoles. Donc, si vous voulez, le problème de ces transferts vers les bases de données qui deviennent déterminant en fait une sorte de gouvernance qui est centralisée en fait, sauf si on va vers des approches volontairement distribuées, mais on a un réel problème qu'on voit avec l'organisation en Chine, avec liberté sous condition, puisque si vous n'êtes pas conforme, vous pouvez pas plus sortir du pays. Donc on a ces situations, plus le fait que nos systèmes de type Facebook sont quand même le lieu d'un désordre démocratique radical, puisqu'on pense véritablement que les élections américaines ont été trafiquées par Cambridge Analytica. Alors, encore une fois, monsieur, hein, je suis pas en train de dire que tout l'informatique est en train d'être négatif, mais simplement ces pouvoirs-là, quand on voit Zuckerberg comme un petit garçon en train d'essayer de répondre aux questions posées par les sénateurs américains, on a l'impression quand même d'un énorme gouffre, d'un manque politique. Même si les sénateurs l'ont questionné, on a l'impression que ces industriels sont dans une sorte d'impunité aussi du point de vue de leur fiscalité. Donc ce problème est en train, il y a une réaction politique au niveau européen sur ces sujets-là, il y a une réaction européenne aussi sur le sujet des données personnelles. Il y a des réactions aux États-Unis puisque beaucoup de gens de ces GAFA ont quitté et ont créé une organisation qui s'appelle Institut pour des technologies humaines. Donc Voilà. Alors, évidemment, c'est bien que la réactivité, que la prise de conscience est toujours beaucoup plus lente que l'innovation technique. C'est ça, un petit peu, la course de vitesse qui est compliquée. Le vrai sujet, c'est est-ce que nous avons... Je pense qu'il y a une responsabilité collective du point de vue de la construction politique aujourd'hui qui nous est posée. C'est qu'est-ce qu'on est capable de réorganiser nos polarités, nos champs de force politique différemment et non pas continuer à des guéguerres qui sont en dehors du scope, enfin en dehors des choses principales. Et là, on peut penser que des alliances peuvent se faire, mais il faut vraiment que la question des égos, évidemment, soit retravaillée de manière assez radicale. Est-ce que une politique depuis la base, une réorganisation depuis la base, on voit que la dynamique des Gilets jaunes, elle n'a pas véritablement été portée par le monde intellectuel, il y a plus de cohérence sociale entre les mondes. Les corps intermédiaires ne se répondent pas. Je parlais de résonance tout à l'heure. Donc c'est là qu'il y a une maladie sociale assez forte. Est-ce que il y a des pays plus avancés? Moi, j'étais en Suisse là ce week-end. Ils ont quand même une habitude de prendre à bras le corps les dilemmes. Je pense que la politique doit apprendre à affronter des complexités et à habituer les citoyens à être face à des dilemmes et non pas dans la simplification dont on a l'habitude en France, dont on a un art absolument abouti, puisqu'on est vraiment toujours dans le dogmatisme. Donc voilà, peut-être que dans les pratiques, avoir des démarches comme l'avait proposé Dominique Bourg d'ailleurs, d'une chambre du futur où la discussion comme au CESE puisse mener à une construction des choix de priorité sur ce qui compte pour l'avenir pourrait émerger, mais les institutions sont très très au tapis, très très mal, pas du tout en forme, et surtout les acteurs sont très effondrés. Et on a l'impression que les personnes n'ont plus du tout de confiance dans leur propre structure. Donc c'est plutôt un appel peut-être à la responsabilité individuelle, à se dire bah là où je suis, je peux changer les choses. Parce que je crois que ça, il faut pas forcément beaucoup de monde pour redynamiser certains lieux.
Merci beaucoup. François Hévé sera pas surpris que je cite un auteur italien pour essayer de terminer, Antonio Gramsci, un marxiste, comment on dirait aujourd'hui, ouvert, avait cette expression « le vieux, la crise, le neuf ». Quand le vieux n'est pas encore tout à fait mort et que l'on n'arrive pas à coucher du neuf, eh bien la crise est inévitable. Et en vous écoutant, je me demande s'il ne faudra pas passer vraiment par une crise très très profonde plutôt que d'essayer des petits ajustements de renouvellement des forces politiques avant que enfin la crise accouche du neuf. Voilà, c'est peut-être pas très optimiste comme conclusion, c'est plutôt gramscien. Et que cela vous empêche pas de passer de bonnes vacances. Je vous rappelle que des urnes attendent à la sortie, non pas vos bulletins de vote, mais vos contributions à l'organisation de ces soirées, et que nous nous retrouvons dès à présent, c'est programmé, le premier mardi d'octobre, pour un sujet, bien sûr, qui reste là à déterminer. Voilà, merci encore à nos deux intervenants, et bonne soirée à vous tous.